Bonjour à tous.
Moi, je pars sur l'idée de la transmission vraiment professionnelle, pédagogique, le fait de transmettre un savoir. Et bêtement, je me repose sur mon expérience professionnelle, qui est en tant que médiateur culturel, à la fois en tant que service civique et en tant que saisonnier, dans un parc qui s'appelle Ornavik, donc à Hérouville-Saint-Clair, c'est juste à côté du château de Beauregard où il y a le festival. Donc, Ornavik, oula, c'est pas la bonne couche. Donc, qu'est-ce que c'est ? Ornavik, ça se présente comme ça se veut comme un parc d'archéologie expérimentale. Qu'est-ce que c'est que l'archéologie expérimentale ? Le but, c'est de mettre en œuvre des conditions qui nous mettent dans les mêmes conditions que les gens de la période étudiée. Et Ornavik, la période étudiée, c'est, selon le slogan, des Vikings normands, c'est-à-dire l'arrivée des Scandinaves durant l'ère viking du 8e, 9e, 10e siècle, et leur rencontre avec les populations qui étaient installées avant les Scandinaves, qui ensuite sont devenues, avec les mélanges culturels et les mélanges et l'histoire, eh bien, le duché de Normandie qui apparaît au 11e siècle avec Guillaume, etc. Donc, le but d'Ornavik, c'est de construire des bâtiments sur des bases archéologiques avec des historiens, des archéologues qui conseillent et qui donnent leur avis sur la démarche à suivre, et ce, de manière historique, c'est-à-dire qu'on veut pas de tractopelle, pas de tournevis, on fait ça avec le plus possible, et ça va être important plus tard, avec les outils de l'époque et les méthodes de l'époque. Qu'est-ce que j'entends par là ? On fait autant que possible avec les vieux outils, des outils à bois, des haches, etc. Mais des fois, il y a des compromis à avoir. Par exemple, on va avoir, donc ici on a deux maisons, ici une maison qui vient de ce qu'on appelle la maison de Sebi, qui vient d'un village qui s'appelle Sebi en Suède, qui a été retrouvé en Suède, qui a été reconstitué. Et ici c'est une grande ferme qui vient de la plaine de Caen. Donc on a deux villages, il y a un village carolingien donc, basé sur des vestiges archéologiques trouvés en Normandie, et un village scandinave basé sur des vestiges archéologiques trouvés à travers toute la Scandinavie. Donc là c'est une maison suédoise. De manière générale, on est très inspiré d'un village qui s'appelle le village d'Edby, qui est aujourd'hui en Allemagne, mais à l'époque c'était au Danemark, et c'était un grand comptoir commercial très important durant l'ère viking. Et donc je reviens sur le coup, l'aspect compromis sur les méthodes à suivre. Donc, par exemple ici, on a le toit de chaume, etc., le travail du bois. On se base sur des vrais vestiges archéologiques, mais par exemple, quand je dis qu'on se base sur des vestiges archéologiques, la maison sur laquelle on se base pour avoir reconstitué la grande ferme, il n'y avait pas de maison, hein. Il y avait juste des pierres dans le sol en fait. Il y avait des pylônes, en fait non, il n'y avait pas de pylônes, il y avait juste les marques des brûlures parce qu'on brûlait le sol avant de mettre les pylônes à l'époque. Donc il y a aussi une part d'imagination, et c'est ça l'aspect expérimental de la chose, c'est qu'au moment où on regarde des plans archéologiques, on commence à construire et en fait on voit que ça fonctionne pas et qu'on peut ça pas possible de construire comme ça parce que sinon ça tient pas tout bêtement. Et autre compromis à avoir, c'est que c'est un lieu touristique et donc il y a du public qui visite le lieu et donc il y a des normes de sécurité. Donc, par exemple, on les voit pas, mais à l'intérieur de la grande ferme et de la maison, il y a des petits morceaux de métal pour éviter, pour que ça soit aux normes, tout bêtement. Autre chose, ça va être très pragmatique, mais il y a également, dans les futures années, le plan de construire une motte castrale. Qu'est-ce que c'est qu'une motte castrale ? C'est une colline artificielle, ça apparaît beaucoup en Normandie au 11e ou 12e siècle, c'est une colline artificielle sur laquelle il y a une sorte de tour en bois, et ensuite il y a des murailles, il y a des palissades, il y a des pieux qui protègent. À l'époque, c'était tous les fermiers qui se mettaient dessus. Bon, vous vous doutez bien qu'avec des bénévoles, la plupart du temps retraités, on ne va pas leur demander de faire des allers-retours avec des dizaines et des milliers de sacs de terre pour faire une colline. On a pris un tractopelle, forcément. Donc, il y a des compromis, mais le but, c'est de se rapprocher le plus possible des techniques utilisées. Donc, par exemple, il y a également le plan de la construction d'une église. Et là, c'est un gros projet parce que ce n'est pas du bois, c'est de la pierre, mais il y a une charpente. Donc, la charpente, les différentes pièces de charpente, c'est fait à la hache. Donc, des coupes qui se feraient en 5 minutes, elles prennent une heure parce que c'est fait à la hache, tout bêtement. Autre chose, on a la mascotte du parc, on va dire, c'est depuis 2 ans un bateau, c'est un bateau scandinave, donc un bateau viking, on va dire. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que les bateaux vikings, en fait, il y a des dizaines de noms pour parler de bateaux vikings. On va dire un bateau viking, et pas Drakkar. Un bateau viking, c'est bien mieux que dire Drakkar. Il n'a pas été construit sur le parc. À vrai dire, ce bateau, il a plusieurs décennies, il a été construit en Norvège, par un artisan spécialisé qui fait toutes sortes de bateaux de reconstitution de l'ère viking. Donc ça, c'est une autre chose. Et en dernier projet, décidément, j'ai du mal. Hop. Je reviens après là-dessus. C'est le projet de centre d'interprétation. Alors la photo, elle est très pixelisée, c'est pas beau, c'est ma faute. En gros, ça, c'est une projection 3D. Hein, c'est pas, y a pas ça sur le parc. C'est que d'ici quelques années, en fait, le parc est fermé l'hiver. L'automne, il ferme en novembre, il rouvre en avril. Le but, c'est d'offrir, en même temps que l'ouverture du parc et quand le parc est fermé, une sorte de musée, mais qui n'en est pas vraiment un, qui sert également à maintenir l'activité sur le parc quand le parc, lui, est fermé pour des raisons environnementales. Parce que, en fait, quand il pleut et qu'il caille, les gens ne vont pas aller dans un parc où il n'y a pas de couverture. Donc, le but, ça sera de montrer d'autres exemples d'archéologie expérimentale, rentrer plus en détail sur l'aspect historique, sur les sources utilisées pour le parc, etc. Donc ça, c'est aussi un gros projet. Et comment en Avec Survie, parce que de base, c'est une association, hein, c'est pas une entreprise, ça commence à le devenir, mais c'est toujours officiellement une association, bah, c'est les aides communales, les aides de l'État, les aides de la région, etc. etc. Donc, par exemple, Rodolphe Thomas, le maire d'Hérouville, il la fond derrière. Quoi. Donc, ça, c'est pour le petit exposé de ce que c'est en soi Ornavik. Et ensuite, il y a mes tâches en tant que médiateur de transmission. Et donc, il y a différentes activités diverses. Évidemment, il y a les visites. Et déjà, dans les visites, il y a plusieurs enjeux dans la transmission. C'est que le parc, il est ouvert à tous. Et moi, mon travail, c'est pas juste de faire un exposé historique, c'est de vulgariser l'histoire. L'histoire, c'est compliqué, il y a plein de choses complexes, il y a plein de contradictions, il y a des sources qui sont plus ou moins sûres. Donc comment, en tant que médiateur, moi je dois transmettre ce savoir historique qui est des fois un peu bancal à des gens qui ne sont pas du tout spécialisés et qui des fois ne sont pas adultes. Voire ils ont plusieurs démographies. Il y a des groupes d'adultes, il y a des groupes d'enfants. Ça va quand c'est que des enfants, que des adultes. Ça devient plus coton quand c'est des familles avec des adultes, des adolescents et des petits-enfants. Ça devient encore plus coton quand c'est des adultes avec des enfants, des adolescents, des petits-enfants et qu'il y a une autre famille qui ne parle pas français. Donc, c'est toujours un défi, déjà. Enfin, un défi, non, c'est pas un défi. Mais c'est un petit challenge en tant que guide de savoir gérer comment transmettre le savoir et à quel niveau de vulgarisation et de simplification il faut s'abaisser, en fait. Et en fonction des publics, il faut s'adapter. Par exemple, moi j'ai eu la tâche, il y a quelques temps, d'avoir un groupe spécial venu de Belgique qui était des adultes, mais venu d'un centre psychiatrique où c'était des adultes avec un retard mental. Comment faire? On s'adapte. Et c'était d'ailleurs une excellente visite que j'ai beaucoup appréciée. Autre activité, il y a différents bénévoles, des troupes de reconstituteurs qui font des combats, toutes sortes de choses. Ensuite, il y a des jeux de société. Ensuite, il y a des activités pour les enfants. Comment on fait pour transmettre le savoir historique tout en restant ludique pour une classe de CE1, par exemple. Donc, par exemple, on va leur faire peindre des petits boucliers. Forcément, moi, je parle à des enfants qui ont 8 ans. Comment je fais pour que ça soit intéressant historiquement, pour qu'ensuite, en rentrant à l'école, ils se disent, ils fassent avec leur maîtresse ou leur maître d'école un petit atelier sur les Vikings, sans que ça soit un peu carnavalesque. Donc, il faut toujours trouver un équilibre. Bon, dans la réalité des faits, quand ils doivent peindre leur petit bouclier, la plupart du temps, ils me font Captain America, hein, ils me font pas un viking. Mais en général, ça leur plaît et c'est toujours pas mal. Donc, en conclusion, rapidos, le fait d'être médiateur, c'est à la fois, dans le but de transmettre le savoir, c'est savoir en fait, se placer et gérer le niveau de vulgarisation et de simplification en fonction des publics, même quand il s'agit d'un sujet extrêmement riche, qui est ici le sujet historique de la création du duché de Normandie et de la région de Normandie.
Merci beaucoup. Merci Valentin. Sans perdre un instant, nous allons passer à la petite partie questions. Donc si dans l'assistance nous avons des questions pour à la fois Valentin, Tiffany et Sandy, nous vous écoutons. Oui, je vois des mains levées là-bas. Bienvenue.
Merci. Du coup, c'est plutôt une question pour Sandy. Merci beaucoup pour ta présentation. Du coup, je ne sais pas comment c'est vu le cas de ces femmes-là par la Corée, le reste de la Corée. Parce que c'est vrai que le féminisme et la condition de la femme de manière générale, ce n'est pas forcément vu d'un très bon œil de manière générale. Du coup, est-ce que tu as une idée à peu près de comment elles sont perçues? Est-ce qu'elles sont connues? Est-ce que c'est...
Alors, ouais, elles sont très connues en Corée.
C'est mieux comme ça?
Ouais. Elles sont très connues en Corée. Je pense que maintenant, en fait, ils en sont fiers. Mais j'ai cru lire que, justement, au XXIe siècle, les enfants des réunions, ils avaient un peu honte. Parce que, elles étaient souvent très dénudées avant d'avoir leur combinaison. Et ça, c'était très mal vu dans un pays très confucianiste où il ne faut pas montrer son corps, quoi, en tant que femme. Maintenant, elles sont quand même assez célébrées, je pense. Mais le fait est aussi que maintenant, c'est un peu des mythes vivants qui vont bientôt disparaître. Donc, c'est pour ça. Mais maintenant, de toute façon, il n'y a même plus ce contexte matrifocal vraiment, parce que les hommes travaillent aussi. Je ne sais pas, après, je ne connais pas de Hainyu personnellement, il faudrait qu'on leur demande. Mais en tout cas, maintenant, elles sont célébrées, parce qu'il n'y a plus non plus ce contexte girl power, etc. Même s'il y a des plus jeunes coréennes maintenant qui essayent de se lancer dans ce métier, parce qu'il y a une grande liberté qu'on ne trouve pas dans les autres métiers.
Ouais, ma question, c'était plutôt pour Valentin. C'était sur un point de détail, mais par rapport à l'utilisation du mot de vainqueur. C'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. Mais je me posais la question d'un point de vue justification. De pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas utiliser ce mot-là et plutôt bateau viking? Parce que d'un point de vue étymologique, ça vient des têtes de proue et c'est les Français qui ont décidé de les appeler comme ça. Mais pourquoi finalement est-ce que ce serait un mauvais mot en fait pour parler de ces bateaux?
C'est une bonne question dans le sens où effectivement dans le langage commun, drakkar c'est rentré en France. C'est qu'en France par contre. Les Allemands ils disent, les Anglais ils disent Viking boat, les Allemands ils... Alors les Allemands ils ont un équivalent de drakkar qui est aussi une autre énormité historique. Dans le sens où moi je suis obligé à chaque visite, de faire la petite remarque, dans le sens où moi, je suis tâché de... Je ne suis pas historien, mais je suis quand même censé donner des sources historiques. Or, drakkar, c'est le 19e siècle. Donc, ce n'est pas possible. Moi, à chaque fois que je le dis, je n'arrive pas, dans le but de casser les rêves, je ne vais pas me glousser dans le fait que les gens ils sont tristes parce qu'ils ont appris que drakkar, ce n'était pas scientifique. C'est plutôt dans le sens, je suis obligé. C'est une erreur, et je le dis. Je ne vais pas menacer les gens, évidemment, d'arrêter de le dire, parce que de toute manière, c'est tellement rentré que le mot drakkar a pris une valeur culturelle qui dépasse juste le fait d'être une erreur historique. Maintenant, c'est presque un mot du patrimoine français, en fait. À défaut d'être un mot du patrimoine scandinave, du coup.
En fait, si je comprends bien, c'est pas forcément une erreur de l'utiliser, mais c'est une erreur de penser que
c'est historique. À l'époque, c'est ça. Moi, je n'ai pas de problème avec les gens qui utilisent Raka.
J'ai une question pour toi aussi, Valentin. Donc, tu parlais de vulgarisation et de recherche, et notamment aussi par rapport aux termes scientifiques. Et je voulais savoir à quel point est-ce que dans le parc ornamique, est-ce que la recherche en histoire, et donc plus précisément en archéologie, avait une place? Est-ce que c'était, vous vous basez peut-être sur des études qui ont été faites, ou est-ce qu'à partir de ce que vous faites dans le parc, donc je pense notamment aux reconstitutions, peut-être avec les costumes, etc., de mise en situation, est-ce qu'après ça amène à des publications? Quelle est la place de... Est-ce que c'est peut-être des chercheurs qui travaillent?
Alors, le parc a des partenariats avec des archéologues. Il y en a deux, trois qui sont vraiment liés au parc et qui viennent à chaque fois, tous les 6 mois, voir l'avancée des travaux. Est-ce que ça concorde avec ce qu'on a trouvé dans les vrais, sites archéologiques? Parce qu'en soi, en Navic, il y a 10 ans, quand ça a commencé, c'était juste un terrain vague, il n'y avait rien. C'est pas comme le village d'Edbik, qui est un grand comptoir commercial, où aujourd'hui il y a l'archéologie expérimentale, qui était à l'époque un vrai comptoir commercial, sur lequel il y a des vestiges archéologiques. À Navic, il n'y avait rien. Donc le but, c'est de transposer des vestiges qui sont d'ailleurs à un même endroit. Donc effectivement, on a des partenariats avec des archéologues. Moi, je ne suis pas historien de profession, mais j'ai une licence en études nordiques, et j'ai eu des collègues qui, eux, étaient historiens. Par contre, pour ce qui est de l'aspect publication. Il n'y a pas de publication scientifique. Il y a des publications dans l'Ouest-France, typiquement, mais qui sont écrites par mes collègues. Donc l'année dernière, il y avait eu, en partenariat avec la foire de Caen, qui était à thème viking, j'ai un collègue historien, spécialiste des études nordiques, qui a fait une série d'articles scientifiques, mais toujours vulgarisés, puisque c'était pour le Ouest-France, du coup. Donc il y a toujours cet équilibre à trouver entre le scientifique historique et le grand public. C'est ça qui est toujours difficile, c'est à quel niveau de simplification il faut viser, en fait. Voilà.
Merci.
Je t'en prie.
Pour revenir à ça, est-ce que le parc possède plusieurs, par exemple, quand on se penche sur la reconstitution historique de cette époque, on se rend compte que selon l'époque, selon l'endroit géographique, que ce soit en Norvège, où il y a peut-être un peu moins de sources, au Danemark ou en Suède, est-ce qu'il y a des sortes de compartiments dans le parc pour telle ou telle époque et zone géographique, ou justement tout est plutôt simplifié en fait, dans une sorte de globalité scandinave?
Alors, c'est un peu des deux, en fait. Dans le sens où il y a deux villages, il y a le village carolingien et il y a le village scandinave. Le village carolingien, il est basé sur le village de Saint-Martin-de-Trencourt, qui est un village qui a été retrouvé il y a 40 ans environ, près de Mondeville. Donc qui est basé sur un vrai village du coin, en fait. À part la grande ferme qui vient de la plaine de Vieux, qui reste quand même une plaine qui est la plaine de Caen. Ensuite, le côté, on prend un peu de partout et on les met dans un seul endroit, ça va être le village scandinave. Donc je vous ai montré la maison de Sévi, qui est une maison inspirée d'une maison retrouvée dans un site archéologique en Suède. Typiquement, on ne retrouve aucune maison comme ça au Danemark, et encore moins en Norvège, où on n'a pas de sapins comme ça, on n'a pas d'arbres comme ça. Donc on va avoir au village scandinave une maison suédoise, une forge qui vient du Danemark, on a un bateau qui est construit par un Norvégien. Il y a ce côté un peu musée en plein air, ce qui n'est pas du coup le cas au village carolingien, qui est plus proche d'un vrai village retrouvé. Voilà.
Du coup, au niveau des vêtements, par exemple, c'est un peu... Ça dépend des reconstituteurs.
Ça dépend de où ils sont placés.
D'accord.
Alors, c'est ça. Il y a pas mal de différences au niveau des fibules, comme tu l'as précisé. Après, il faut aussi garder en tête que l'immense majorité des gens qui sont placés sur le parc, qui ne font pas des visites, hein, qui sont juste placés sur le parc et qui travaillent sur le parc, c'est des bénévoles. C'est des bénévoles, et donc ce n'est pas des historiens, ce n'est pas des archéologues, c'est des menuisiers à la retraite, c'est des comptables qui prennent de leur temps libre pour se mettre en tenue et un samedi après-midi, un samedi matin, travailler sur une charpente d'une église avec des haches, ce genre de choses. Forcément, on ne peut pas demander à Philippe, qui a 70 ans, qui a le dos en vrac, de jeter sa canne. Forcément, il y a toujours des sacrifices à faire. S'il y a un tailleur de pierre qui est salarié, qui est payé par le parc pour tailler des pierres, ben, il y a des normes de sécurité. Donc il ne va pas avoir des petites chaussures du Moyen-Âge en cuir, il va avoir des grosses chaussures de sécu. Encore une fois, il y a un équilibre à trouver.
Et voilà, moi j'ai une toute petite dernière question pour Tiffany. Tiffany, tu nous as parlé de ce processus de métamorphose dans la réécriture des contes. On a remarqué une période de zombies, on a remarqué une période de vampires, une période de loup-garou, on pensera tous à Twilight. On a remarqué toutes ces choses-là. Selon toi, c'est quoi la suite? Quel va être le nouveau personnage étendard de la réécriture du conte de fées, selon ton instinct, évidemment?
Quand tu dis personnage, tu sous-entends genre quelles caractéristiques il va avoir ou plus généralement
Oui, ça peut être un morphotype, une créature particulière.
J'ai l'impression que le personnage typique maintenant, il est féminin quand même, se revendiquer très indépendante, très engagée sur les thèmes, aussi un peu casser les codes de ce qu'on pouvait lire dans le passé, c'est-à-dire si on prend l'exemple dans les réécritures de contes, c'est la princesse qui va se sauver toute seule, qui a pas besoin d'un prince pour venir la sauver, ou voilà des, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais voilà des contes où les rôles vont être inversés, où les personnages vont juste changer de rôle dans une réécriture, par exemple de Princess Bride, je sais pas si vous connaissez, là les rôles sont totalement inversés, c'est-à-dire que c'est le personnage masculin qui se fait kidnapper et c'est à la princesse, à, du coup une pirate plus, de venir le sauver. Donc voilà, on voit vraiment un engagement sur montrer voilà, que le personnage féminin, il n'est plus juste là à attendre d'être sauvé, qu'il a aussi une quête, des objectifs, des ambitions. Et voilà, pas juste à attendre d'être sauvé par quelqu'un extérieur à son problème, voilà, à attendre endormi que quelqu'un vienne la réveiller, quoi.
Et vous aviez raison quand vous disiez tout à l'heure qu'il y avait eu un engouement pour les contes de fées autour de 2010. Mais ça a été le cas auparavant aussi, en 1976, Bettelheim avait publié la psychanalyse des contes de fées, et ça avait permis aux lecteurs adultes de réaliser que les contes de fées s'adressaient aussi aux adultes, avec des thèmes comme l'inceste, etc. Et ça a donné lieu à des réécritures de contes de fées dans les années 80, comme l'écrivaine anglaise Angela Carter, par exemple. Et il y a déjà eu une mode de réécriture des contes de fées dans les années 80 qui a été reprise dans les années 2000. Alors il y a le meilleur comme le pire, hein. il y avait, je me souviens, des contes à faire rougir les petits chaperons, des choses comme ça. Bon, vous imaginez le contenu un petit peu, mais bon, il y avait aussi des ouvrages de très bonne qualité.
Et ainsi, il n'y a plus de questions, je vous propose qu'on passe tous à la partie déjeuner de cette journée. Merci à vous.